Deuxième partie. Mardi 18 août, Louise. Le chagrin de Louise était tel la rivière, constant et changeant. Il ondulait, débordait, enflait et baissait, certains jours froids, profonds et sombres, d'autres vifs et aveuglants. Sa culpabilité aussi était liquide. Elle s'insinuait par la moindre fissure chaque fois qu'elle essayait d'y mettre un barrage. Louise avait des jours avec et des jours sans. Hier, elle était allée à l'église pour voir Nell disparaître sous la terre, ce qui, et elle aurait dû s'en douter, n'avait pas eu lieu. En revanche, elle avait bel et bien vu son cercueil partir pour la crémation. On pouvait donc parler d'un jour avec. Même son déluge d'émotions, elle avait sangloté pendant toute la cérémonie sans pouvoir se retenir, s'était révélée cathartique. Mais aujourd'hui... Aujourd'hui, Louise allait retrouver ses démons. Elle le sentit dès son réveil. Non pas une présence, mais une absence. L'euphorie qu'elle avait ressentie ces derniers jours, cette satisfaction vengeresse, commençait déjà à s'atténuer. Et maintenant que Nell n'était plus que cendre, Louise n'avait plus rien. Rien. Elle ne pouvait plus aller jeter sa douleur et sa souffrance à la face de quiconque, parce que Nell n'était plus là. Et elle craignait que ses tourments n'aient plus qu'un seul endroit où se réfugier désormais. Chez elle. Chez son mari. Chez son fils. Alors aujourd'hui, Louise allait retrouver ses démons, oui. Mais cette fois, elle ne les laisserait pas l'avaler tout entière. Cette fois, elle comptait bien se défendre. Elle avait pris sa décision, il était temps d'avancer. Il devait s'en aller avant qu'il ne soit trop tard. Cela faisait plusieurs semaines que Louise et son mari, Alec, ressassaient la même dispute, un de ces accrochages à voix basse qui semblait les opposer constamment ces derniers temps. Alec estimait qu'il ferait mieux de déménager avant la rentrée. Cela permettrait à Josh de commencer la nouvelle année scolaire ailleurs, soutenait-il, quelque part où personne ne le reconnaîtrait, et où il ne serait pas chaque jour obligé d'affronter l'absence de sa sœur. « Tu veux qu'il l'oublie, c'est ça ?» avait un jour rétorqué Louise. « Bien sûr que non », avait soupiré Alec. Ils étaient dans la cuisine et chuchotaient tous les deux d'une voix éreintée. « Il faut qu'on vende cette maison et qu'on reparte de zéro », avait repris Alec. « Je sais. » Il avait levé les mains alors que Louise commençait à protester. « Je sais que c'est la maison où elle a grandi. » Il avait chancelé et il avait posé ses grandes mains tachetées par le soleil sur le plan de travail. Il s'y était agrippé comme à une bouée de sauvetage. « Il faut prendre un nouveau départ, Lou, pour Josh, s'il n'y avait que toi et moi. »« S'il n'y avait que deux, » avait songé Louise, « il suivrait Cathy au fond de l'eau et s'en serait fini. » À la réflexion, elle n'était pas sûre qu'Alec le ferait. Avant, elle pensait qu'il fallait être parent pour comprendre cet amour qui vous engloutit tout entier. Maintenant, elle songeait que ce n'était peut-être que le privilège des mères. Alec éprouvait le même chagrin, évidemment, mais elle doutait qu'il éprouve le même désespoir, la même haine. Les fissures commençaient donc déjà à apparaître dans ce couple qu'elle avait cru inébranlable. Quelle naïveté! C'était à présent une évidence. Aucun couple ne pouvait survivre à une telle épreuve. Il y aurait toujours, s'interposant entre eux deux, l'idée que ni l'un ni l'autre n'avait su l'arrêter. Pire, aucun d'eux n'avait rien soupçonné. Ils étaient allés se coucher et s'étaient endormis pour trouver son lit vide le lendemain matin, sans imaginer une seconde qu'elle était dans la rivière. Il n'y avait plus d'espoir pour Louise et très peu, songeait-elle, pour Alec. Mais pour Josh, c'était différent. Sa sœur lui manquerait chaque jour pour le reste de sa vie, mais il pouvait encore être heureux, et il le serait. Il la garderait avec lui, mais il pourrait aussi travailler, voyager, tomber amoureux, vivre. Sa meilleure chance d'y arriver était de partir d'ici, de quitter Beckford, de s'éloigner de la rivière. Louise savait que son mari avait raison. Quelque part, elle le savait depuis longtemps, même si elle répugnait à l'admettre. Mais hier, en observant son fils après l'enterrement, Elle avait été prise de terreur. Ce visage blême, anxieux. Cette propension à sursauter pour un rien, à tressaillir au moindre bruit, à se recroqueviller comme un chien perdu dans la foule. Cette façon de la chercher du regard en permanence, comme s'il régressait jusqu'à la petite enfance. Ce n'était plus un adolescent autonome de 12 ans, mais un tout petit garçon accroché aux jupes de sa mère. Il devait le sortir de là. Et pourtant, c'était ici que Cathy avait fait ses premiers pas, prononcé ses premiers mots, joué à cache-cache, fait des roues dans le jardin. Ici qu'elle s'était disputée avec son petit frère pour le réconforter juste après. Ici qu'elle avait ri, chanté, pleuré, juré et saigné. Et ici qu'elle avait chaque jour embrassé sa maman en rentrant de l'école. Mais Louise avait pris sa décision. Comme sa fille, elle était déterminée. Même si l'effort allait terriblement lui coûter. Rien que pour se lever de la table de la cuisine, marcher jusqu'en bas de l'escalier, monter les marches, poser la main sur la poignée de la porte, l'abaisser et entrer dans sa chambre pour la dernière fois. Parce que c'était ce qu'il lui semblait, ce serait la dernière fois que c'était sa chambre. Après aujourd'hui, ça deviendrait autre chose. Le cœur de Louise n'était plus qu'un morceau de bois. Il ne battait plus. Il ne lui faisait que du mal, écorchant sa chair, lacérant ses veines et ses muscles, emplissant sa poitrine de sang. Des jours avec et des jours sans. Elle ne pouvait pas laisser la chambre dans cet état-là. Aussi difficile qu'il fût d'envisager de débarrasser les affaires de Cathy, emballer ses vêtements, décrocher ses photos des murs, la ranger tout entière, la dissimuler à jamais, c'était pire d'imaginer des inconnus dans cette pièce. Pire d'imaginer ce qu'ils voudraient toucher, peut-être à la recherche d'indices, de les imaginer s'étonner de la normalité de tout cela, de la normalité de Cathy. Elle ? Mais non, impossible. Ça ne peut pas être elle, la fille qui s'est noyée. Alors, Louise devrait le faire. Dans une minute, elle débarrasserait le bureau des affaires d'école et récupérerait le stylo plume autrefois niché entre les doigts de sa fille. Elle plierait le t-shirt gris tout doux avec lequel Cathy dormait. Elle referait son lit. Elle rangerait dans la boîte à bijoux les boucles d'oreilles bleues que la tante préférée de Cathy lui avait offertes pour son 14e anniversaire. Dans une minute, elle irait chercher la grande valise noire rangée au-dessus de l'armoire de l'entrée pour y mettre tous les habits de Cathy. Dans une minute. Elle se tenait au milieu de la pièce à penser à tout cela quand elle entendit un bruit derrière elle. Elle se retourna pour se retrouver face à Josh sur le seuil qui la regardait. « Maman ? » dit-il d'une voix étouffée, le visage livide. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Rien, mon chéri, j'étais... » Elle fit un pas vers lui, mais il recula. « Tu vas... Tu vides sa chambre ?»«
Je vais commencer, oui. »«
Qu'est-ce que tu vas faire de ses affaires ?»
demanda-t-il d'une voix encore plus aiguë, étranglée.
Tu vas les donner ?
Non, mon chéri. Elle s'approcha de lui et d'une main écarta les cheveux sur son front. On va tout garder. On ne donnera rien. Il semblait inquiet.
Mais tu ne devrais pas attendre papa ? Il faut qu'il soit là, non ? Tu ne devrais pas faire ça toute seule.
Je vais juste commencer, lui dit-elle avec un sourire, d'une voix aussi sereine que possible.
Mais je croyais que tu étais parti chez Hugo ce matin, alors. Hugo était un ami de Josh, peut-être son seul vrai ami. Chaque jour, Louise remerciait le ciel de l'existence de Hugo et de sa famille, qui accueillait Josh dès qu'il avait besoin d'une échappatoire.
J'avais oublié mon portable, je suis revenue le chercher, expliqua-t-il en lui montrant le téléphone.
D'accord, très bien. Tu restes déjeuner chez eux ?
Il hocha la tête, tenta de sourire, puis disparut. Elle attendit le claquement de la porte d'entrée pour s'asseoir sur le lit et s'autoriser à pleurer pour de bon. Il y avait un vieil élastique sur la table de nuit, tout étiré et effilé jusqu'à la corde, de grands cheveux de Cathy encore emmêlés dessus. Louise l'attrapa et le fit tourner dans ses mains, l'enroula autour de ses doigts, le porta contre son visage. Elle se leva pour aller jusqu'à la coiffeuse, ouvrit la boîte à bijoux en étain en forme de cœur et y déposa l'élastique. Il resterait là, parmi ses bracelets et ses boucles d'oreilles. Rien ne partirait à la poubelle, tout resterait là. Enfin, pas là, mais quelque part. Toutes ses affaires voyageraient avec eux. Elle refusait qu'un seul morceau de Cathy, qu'un seul objet qu'elle ait touché se retrouve à dépérir sur l'étagère poussiéreuse d'une friperie. Au cou de Louise pendait le collier que Cathy portait quand elle était morte. Une chaîne argentée avec un petit oiseau bleu. Louise était agacée qu'elle ait choisi ce bijou en particulier. Elle ne pensait pas que Cathy y tenait tant que ça. Pas comme les boucles d'oreilles en or blanc qu'Alec et Louise lui avaient offertes pour son 13e anniversaire et qu'elle adorait. Pas comme le bracelet d'amitié, de fraternité, que Josh lui avait acheté avec son propre argent de poche lors de leurs dernières vacances en Grèce. Louise n'arrivait pas à comprendre pourquoi Cathy avait choisi ce collier, un cadeau de Léna, dont elle semblait pourtant s'être éloignée au cours des derniers mois, avec sur l'oiseau un message gravé qui ne ressemblait vraiment pas à Léna, avec tout mon amour. Elle ne portait pas d'autres bijoux ce jour-là. Une robe verte et une veste trop chaude pour cette nuit d'été, les poches remplies de pierres. Son sac à dos pareillement lesté. Quand on l'avait trouvée, elle était entourée de fleurs, certaines encore serrées dans ses poings, comme Ophélie, comme le tableau au mur chez Nell Abbott. Les gens disaient que c'était au mieux excessif, au pire aberrant et cruel de reprocher à Nell Abbott ce qui était arrivé à Cathy. Simplement parce que Nell écrivait au sujet du bassin, qu'elle parlait du bassin, qu'elle y prenait des photos, qu'elle interviewait des gens, qu'elle publiait des articles dans la presse locale, qu'elle en avait parlé un jour dans une émission de la BBC, simplement parce qu'elle utilisait les mots « lieu à suicide », simplement parce qu'elle parlait de ces nageuses bien-aimées comme de formidables héroïnes romantiques, des femmes de courage, allant volontairement à la mort dans cet endroit qu'elles avaient choisi pour sa beauté, on ne pouvait pas la tenir pour responsable. Mais Cathy ne s'était pas ouvert les veines. Elle n'avait pas avalé une poignée de médicaments et elle ne s'était pas pendue à la porte de sa chambre. Elle avait choisi le bassin. Le plus aberrant, c'était d'ignorer cela, le contexte. D'ignorer délibérément à quel point certaines personnes sont influençables, les gens sensibles, les jeunes. Les adolescents, même les enfants sages, gentils et intelligents, peuvent se laisser enivrer par des idées. Louise ne comprenait pas pourquoi Cathy avait commis cet acte, et elle ne le comprendrait jamais. Mais elle savait que ce n'était pas un geste dénué de contexte. Le psychologue, qu'elle n'avait vu que deux fois, lui avait dit qu'elle ne devait pas chercher à savoir pourquoi. Elle ne pourrait jamais répondre à cette question, que personne ne le pouvait. Que dans la plupart des cas où quelqu'un mettait fin à ses jours, il n'y avait pas qu'une seule raison, que la vie était plus compliquée que cela. Désespérée, Louise lui avait fait remarquer que Cathy n'avait jamais souffert de dépression, qu'elle n'était pas harcelée au collège. Ils avaient discuté avec le personnel du collège, ils avaient épluché ses emails, sa page Facebook, ils n'y avaient trouvé que de l'amour. Elle était jolie, elle avait de bonnes notes, elle avait de l'ambition, de la détermination. Elle n'était pas malheureuse. Perdue parfois, nerveuse souvent, mal lunée de temps à autre, bref, une adolescente de 15 ans. Mais surtout, elle n'était pas cachotière. Si elle avait eu des ennuis, elle en aurait parlé à sa mère. Elle racontait tout à sa mère, depuis toujours. « Elle ne me cachait rien », avait affirmé Louise au psychologue, et elle l'avait vu détourner le regard. « C'est ce que pensent tous les parents », avait-il répondu d'une voix douce. « Et ils ont probablement tous tort. » Louise ne l'avait plus revue après ce jour-là, mais le mal était fait. Une fissure s'était ouverte, et la culpabilité s'y était engouffrée, goutte après goutte au début, puis en un flot ininterrompu. Elle ne connaissait pas sa fille. C'était pour cela que le collier la dérangeait tant. Pas seulement parce que c'était un cadeau de Léna, mais parce qu'il était devenu un symbole de tout ce qu'elle ignorait dans la vie de sa fille. Plus elle y pensait, plus elle s'en voulait. Elle se reprochait d'avoir été trop occupée, d'avoir passé trop de temps à s'inquiéter pour Josh, d'avoir échoué aussi spectaculairement à protéger sa fille. Cette marée de culpabilité montait et montait, Et le seul moyen de garder la tête hors de l'eau, de ne pas s'y noyer, c'était de trouver une raison, quelque chose à montrer du doigt en disant « Là, voilà l'explication ». Sa fille avait fait un choix insensé, mais avec les poches remplies de pierres et des fleurs dans les mains. Son choix avait un contexte, et ce contexte lui avait été fourni par Nell Abbott. Louise posa la valise noire sur le lit, ouvrit l'armoire et commença à en sortir les vêtements de Cathy. Ses t-shirts colorés, ses robes d'été, le sweatshirt rose bonbon qu'elle avait porté tout l'hiver dernier. Sa vue se troubla, et elle essaya de penser à autre chose pour empêcher les larmes de couler. Elle chercha une image sur laquelle se concentrer. Alors elle imagina le corps de Nell dans l'eau, brisé, et épuisa le peu de réconfort qu'elle y trouva.